Amen. Lorsque vous envoyez des vœux de bonne année, souvent vous dites vous souhaitez la santé, le bonheur, la prospérité au sens large. Et en fait, en étudiant le passage d'aujourd'hui, je me suis dit ce qu'on devrait envoyer aux gens. Ce sont les 10 commandements. Parce que vous allez voir qu'en fait, les 10 commandements ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond. They're not there for malheur. I'm having fun. I'm having joy. Ils sont là, au contraire, pour nous donner, pour nous conduire au bonheur. Si les gens suivaient davantage les 10 commandements, il y aurait plus de bonheur. Il y a une question qu'on peut poser aux gens pour les inviter à parler de choses spirituelles. Cette question, vous l'avez peut-être déjà entendue, c'est si vous deviez mourir cette nuit, que vous présentiez devant Dieu, et qu'il vous demande pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel, que lui répondriez-vous? La plupart des gens auxquels on pose ce genre de questions répondent quelque chose du genre « Oh, j'ai jamais fait de mal ». J'essaye de faire du bien autour de moi. Et s'ils ont un tantinet d'arrière-plan religieux, ils disent, en plus, je respecte les 10 commandements. La question cruelle, ce serait de leur demander de préciser quels sont ces 10 commandements. La plupart des gens ne se souviennent plus exactement des 10 commandements. Et je ne vais pas vous embarrasser en vous les demandant vous-même. Moïse va nous les rappeler dans le passage du Deutéronome 5 et 6 ce matin. Souvenez que Moïse s'adresse au peuple d'Israël, aux enfants de ceux qui ont péri dans le désert, dans la traversée du désert par manque de foi, il leur rappelle la loi de Dieu. Et dans notre chapitre 5, il commence en disant: écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. Nous allons retrouver cette expression « écoute Israël » plusieurs fois dans le livre du Deutéronome. Et donc, il va leur parler des commandements, des prescriptions, des ordonnances, et tous un peu la même signification, les lois de Dieu.
And he's going to talk to them of the law, the statutes, the ordinances,
Dans ce verset, on voit quatre verbes. Il faut écouter. Il faut apprendre. Il faut observer. Il faut mettre en pratique. Comme le priait Thierry, le tout, c'est pas d'écouter des belles paroles. Il faut les apprendre, les mettre dans notre cœur. Les observer, c'est pas les regarder pour dire tiens, ça fait un joli tableau. Ça pourrait faire un joli poster, mais c'est pas le but. Le but, c'est de les mettre en pratique. Et donc, il leur rappelle que Dieu avait conclu avec eux une alliance à Horeb, c'est-à-dire le mont Sinaï. Il leur rappelle, verset 3, que ce n'est pas seulement avec les pères, avec leurs pères, mais c'est avec eux, aujourd'hui, les vivants. Si vous vous souvenez, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs et le peuple avait peur, donc Moïse est monté seul. Et donc c'est un appel à l'obéissance pratique que Moïse lance avant toute chose. Puis nous allons voir entre les versets 6 et 21 un rappel des 10 commandements. C'est d'abord des commandements relatifs à notre relation avec Dieu. Et il leur dit, moi, verset 6, moi je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Il explique que le sabbat, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Et donc la première chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. C'est intéressant de remarquer qu'à l'origine, les hommes n'étaient pas athées. Ils étaient polythéistes. Le problème, c'était pas qu'ils ne croyaient pas à Dieu, c'est qu'ils croyaient à des tas de dieux. Et là, Dieu leur rappelle qu'il est le seul Dieu. Et deuxièmement, ils ne doivent pas avoir d'idole. Pas de statue, de représentation, d'image sainte. D'abord parce que toute représentation serait nécessairement inadéquate. inexact, mais aussi parce qu'il y a un danger, une progression entre les versets 8 et 9 où on voit que lorsque l'homme fait une statue, une idole, après avoir fabriqué cette idole, ils ont besoin de se prosterner devant cette idole. Et puis de rendre un culte, de servir, de se mettre au service de cette idole. Alors bien sûr, c'est les idoles de ce temps, mais c'est aussi les idoles modernes. Si l'argent est votre Dieu, alors vous allez aller au temple de Wall Street ou de la bourse. Vous allez vous prosterner devant le stock exchange, devant la bourse. Vous allez servir, brancher sur Internet, travailler dur. Mais une chose importante à réaliser, c'est que lorsqu'on recherche une image, c'est parce qu'on a conscience d'avoir perdu le sentiment de la présence. Lorsque Nancy est avec moi, j'ai pas tendance à sortir mon portefeuille pour regarder son image. Non, c'est lorsqu'elle est loin. C'est lorsqu'elle s'est éloignée qu'elle n'est plus présente. Et de la même façon, lorsque dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de voir une croix, nous avons besoin de toucher une petite statuette. C'est parce que nous sommes dans un état spirituel dégradé. Nous n'avons plus conscience de la présence de Dieu. La Bible nous indique qu'il est toujours là. Il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous disait Paul. Dieu veut cette relation intime, quotidienne, au présent. Il veut que vous ayez conscience de sa réalité dans votre vie, tous les jours, à tout moment. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Alors, ce n'est pas la jalousie péché qui se caractérise par des montées de colère violentes. Irrationnelle, méchante. Non, c'est la jalousie d'un père pour un enfant. D'un époux pour sa femme, qui veut la protéger du malheur. Le verset 9, la deuxième partie, pose un problème à certains. Il est dit que Dieu punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Et qu'il use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements.
And
Alors certains parlent d'une malédiction générationnelle. Et il est certain que le péché des parents va affecter, va impliquer les enfants. Les enfants vont être touchés par les malheurs qui arrivent à leurs parents, le divorce par exemple, s'il est causé par le péché. Mais on pourrait prendre ces versets pour dire qu'en fait, si moi je pêche, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont aussi être punis par Dieu. Et là, il y a un principe dans la Bible, dans l'étude de la Bible, c'est de voir tout le conseil de la Bible pour comprendre la Bible. Et notre responsabilité individuelle devant Dieu est quelque chose de clairement indiqué dans la Bible. Ézéchiel 18:20 dit par exemple, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père, et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dans le Deutéronome 24:16, il est dit aussi, pour appliquer des lois humaines, on ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Alors il y a un débat sur le sens de ces versets. Certains disent, par exemple, à l'époque, on vivait, il n'y avait pas de sécurité sociale, de maison de repos, de maison de retraite. Toutes les générations vivaient ensemble. Il pouvait y avoir ainsi quatre générations qui vivaient ensemble. Et l'idée, c'était que le péché de l'une de ces générations allait affecter les autres personnes vivant sous le même toit. Mais une autre explication qui me semble très plausible, c'est qu'en fait, lorsqu'il est question de ceux qui me haïssent, fin du verset 9, il est question des enfants, des fils qui haïssent Dieu. Parce qu'il y a le contraste avec le verset 10, que Dieu va montrer de la bienveillance 4 contre 1000 pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. La grâce de Dieu, je crois, est une chose clairement établie, et l'idée qu'un Dieu puisse se venger du péché sur les générations qui suivraient, dans le sens de péché particulier, il est vrai que nos ancêtres, Adam et Ève, ont péché, que nous en supportons le poids.
Punish,
me semble contraire à l'enseignement biblique. Mais c'est à vous de décider. Verset 11, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors souvent on pense au blasphème, au juron. Mais appeler Dieu Seigneur et ne pas faire ce qu'il veut, c'est aussi prendre son nom en vain. Quelqu'un a dit en fait le plus grand blasphème, c'était d'être chrétien le dimanche et de vivre comme un païen le reste de la semaine. Finalement, ce dernier commandement concernant Dieu, c'était le jour du sabbat. Un jour de repos mis à part. Pour penser à Dieu, pour le sanctifier. C'était révolutionnaire à l'époque. On a du mal aujourd'hui avec la semaine de 35 heures, les congés de 5 semaines. Les week-ends. Le mois de mai et ses ponts qui se transforment en viaduc. À l'époque, c'était inouï d'entendre parler Dieu demander, ordonner qu'on se repose. On y reviendra. Ensuite, il était question des commandements relatifs à nos rapports avec les autres hommes. Et ça commence dans la famille. La famille qui est aujourd'hui battue en brèche. Honore ton père et ta mère. Avec une promesse. C'est Paul qui le remarque dans Éphésiens. Honorer son père et sa mère, ça conduit à une longue vie. Ça conduit au bonheur. Là aussi, on apprend à respecter l'autorité, à respecter les instructions de quelqu'un qui nous veut du bien, quelque part ça préfigure l'autorité de Dieu dans nos vies. Tu ne commettras pas de meurtre. Alors au nom de ce commandement, certains ne veulent pas faire la guerre. Certains disent que c'est un argument contre la peine de mort. En fait, c'est faux. Il est question de pas de tuer simplement, mais de commettre un meurtre. Donc le commandement, c'est pas de ne jamais tuer. Parce qu'il y a bien des passages dans la Bible où le peuple d'Israël est invité à partir en guerre contre des peuples païens. La Bible explique que l'autorité est donnée à l'État pour faire exercer la loi avec la peine de mort si besoin est.
To exercise the death penalty if necessary.
lorsqu'on voit la recrudescence de la violence, l'absence de sanctions,
and the absence of any, constraints or
punishment, on voit que la peine de mort, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi horrible aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. C'est que les gens qui pleurent contre la peine de mort sont les gens, les mêmes gens qui pleurent pour l'avortement. Alors que les masques tombent. Let the mask fall. They pretend to be for life, but they are for death.
Oh, they're pro life, but they're against the death penalty, and they think they need to take their mask off.
Tu ne commettras pas d'adultère.
It also says you shall not commit adultery.
Relations sexuelles pré-maritales ou extramaritales.
Or extramarital relationships.
Tu ne commettras pas de vol. Alors la plupart des gens me disent, j'ai jamais fait de hold-up moi. J'ai peut-être arrondi les impôts. Peut-être que je ramène quelques crayons et quelques cahiers du bureau. Même un trombone qui ne vous appartient pas, c'est du vol. Pas de faux témoignages contre ton prochain. Des mensonges qui peuvent faire du mal à autrui. Et finalement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, etc. Désirer ce qu'a l'autre. C'est le grand moteur de la publicité actuelle. Vous aussi, vous méritez une voiture comme celle-là. Sous-entendu, vous aurez le bonheur. Donc, si on récapitule, un seul Dieu. Pas d'idole,
no idol,
pas utiliser le nom de Dieu en vain,
not to use God's name in vain,
le sabbat,
the Sabbath day,
et puis six commandements qui regardent nos relations avec les hommes, honorer notre père, notre mère,
honor our father and mother,
pas de meurtre,
no murder,
pas d'adultère,
no adultery,
pas de vol,
no stealing,
pas de mensonge,
no lying,
pas de convoitise. Voilà un sujet de carte de vœux l'an prochain. Je vous invite à réfléchir sérieusement. Les versets suivants, 22 à 33, Moïse se pose en médiateur, montre son rôle de médiateur pour recevoir les commandements et ses frères qui avaient peur de Dieu. Verset 32, il rappelle qu'ils devaient observer, mettre en pratique ce que l'Éternel, votre Dieu, leur avait commandé, de ne s'en écarter ni à droite ni à gauche. Et puis le verset suivant et les trois versets du chapitre 6 parlent maintenant d'un concept fondamental. Les commandements de Dieu sont pour notre bonheur. Il y a des promesses de bonheur. Suivez la voie que l'Éternel votre Dieu vous a commandée afin de vivre.
Follow
d'être heureux
and be happy,
et de prolonger nos jours dans le pays dont on prendra possession. Verset 3, tu les écouteras donc, ces commandements. Tu les mettras en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup dans un pays découlant de lait et de miel. Le secret du bonheur. Les 10 commandements. Souvent on pense aux 10 commandements, on pense à la punition. On pense à la loi implacable. Dieu nous donne ses commandements pour notre bonheur. Verset 4, c'est le grand commandement, ce qu'on appelle des fois le schéma, du mot qui veut dire écoute en hébreu. Écoute, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ils mettent ce passage et un autre passage un peu plus loin. Ils mettent ça dans les petites boîtes qu'ils appellent des mezouzas. Et si vous faites des porte-à-porte, vous distribuez des choses, vous verrez des fois des petites mezouzas dans les appartements habités par des juifs orthodoxes. C'est ce que le Nouveau Testament appelle les phylactères. Et l'idée, c'était qu'on mettait ça pour les avoir présents près de nous, comme le commandement l'indiquait. Mais on y reviendra juste un peu plus loin. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. En hébreu, il y a deux mots pour le qu'on traduit par un. Il y a le mot yashin, qui veut dire un tout seul. C'est un, c'est indivisible. Puis un autre mot, echad, qui fait référence à une unité composite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce deuxième mot qui est utilisé ici. Et ça embête bien les rabbins. Parce que selon leur théorie, ça devrait être plutôt Yahin. Un seul Dieu composite, ça les dérange beaucoup. Dans le verset, il est question aussi de Elohim, qui est le pluriel de El, Dieu. Et si c'était le mot Yahin, le mot un tout seul, indivisible, alors le concept de la Trinité ne pourrait pas tenir le choc. Mais c'est l'unité composite. C'est un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça embête beaucoup les cultes, les sectes. Ça embête beaucoup de religions. Mais c'est Ehad.
But the word is Ehad.
Composé.
It's a composite.
Unité. Une unité composée.
It's a oneness that is made up of parts.
Je me souviens d'avoir étudié un peu la Bible avec un témoin de Jéhovah. C'est intéressant parce que chacun en espérait amener l'autre à notre façon de voir les choses. Et il me disait, si vous abandonniez la divinité de Jésus, alors vous pourriez avoir les Juifs avec vous, les musulmans avec vous, les témoins de Jéhovah avec vous. Et je lui dis, c'est pas une question de nombre, c'est une question de vérité. Il est toujours témoin de Jéhovah, malheureusement. Jésus a repris ce verset lorsque un jeune avocat lui demandait, un jeune homme de loi lui demandait quel était le plus grand commandement. Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, Jésus continue, dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est vrai que les quatre premiers commandements sont résumés dans le début du chapitre 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, alors cela s'occupera du respect des quatre premiers commandements. Il sera premier, il sera le seul, ne ferez pas d'idole. Vous n'utiliserez pas son nom en vain. Lorsque les gens utiliseront son nom en vain, vous serez gêné, peut-être vous interviendrez. Et vous respecterez le repos du sabbat. Au moins de consacrer un jour où vous pensez spécialement à lui. Et pourquoi pas tous les jours? Jésus avait repris donc en ajoutant le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'a pas dit, apprends d'abord à t'aimer. Non, implicitement, il a affirmé que c'était un fait acquis. Souvent on parle des gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. La psychologie nous dit que c'est la première chose à assurer. Le plus grand péché du monde, c'est pas le manque d'estime de soi-même. Le plus grand péché du monde, c'est de rejeter Jésus-Christ. Et de ne pas se soumettre à lui. Nous nous aimons tous beaucoup. Pour ça qu'on a un sentiment d'injustice lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut. Qu'on nous traite mal.
Or
que la vie nous traite mal, si je ne m'aimais vraiment pas, alors tant mieux que la vie me fasse du mal. Mais la psychologie moderne veut nous faire croire que c'est notre plus grand besoin. Combien de repas vous assurez en général par jour? Moi, je sais que si je n'ai pas mes 3 repas, je m'aime. S'il y a une photo de groupe, quelle est la première personne que vous regardez dans la photo? C'est Nancy. Non. Pour voir si la photo est bonne, je regarde si j'ai l'air bien ou pas. Il y a une photo de Ronnie sur le web. Je suis sûr qu'elle ne va pas aimer la photo. Je ne l'aime pas non plus. Nous nous aimons. Le problème, c'est d'aimer les autres comme nous nous aimons. D'assurer que ceux autour de nous ont 3 repas aussi par jour. Et verset 6 disait que ces paroles devaient être dans notre cœur. Parce que le cœur, c'est là que la volonté naît. C'est là que nos actes prennent leur source. Et verset 7 nous dit que nous avons donc une responsabilité, c'est de passer le message à nos enfants. En parler quand on sera dans la maison, en voyage, quand on se couche, quand on se lève. La réalité de Dieu doit être sensible dans nos maisons. Encore une fois, pas simplement avec des posters ou des versets qui peuvent être un bon moyen de nous rappeler le Seigneur, mais dans nos conversations. Est-ce que nos enfants connaissent notre parcours spirituel? Peut-être qu'Abigail est encore un peu petite pour ça. Mais je me disais que je devrais être sûr que Tonio et Sébastien savent comment j'étais avant de connaître le Seigneur. Leur dire que j'étais en Égypte. C'est-à-dire en esclavage au péché. Que le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a donné une autre vision des choses. Le Seigneur m'a donné un espoir ferme, une assurance. Je ne suis plus le même. Les versets 10 à 19 parlent d'un danger qui nous guette tous. Le danger de la prospérité. Quand tout va bien dans nos vies, alors on a tendance à oublier Dieu et à profiter des bonnes choses qu'il nous permet d'avoir. Et là, il prend l'exemple de ce peuple d'Israël qui allait pouvoir hériter de villes qu'il n'avait pas construites, de vignes et de cultures qu'il n'avait pas plantées. Et il disait, lorsque tu mangeras, tu te rassasiras. Garde-toi d'oublier l'Éternel. La semaine dernière, nous avons étudié 2 Timothée 2:8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité et descendant de David. Nécessité de penser à Dieu, de se rappeler, de connaître sa parole, de la lire, de l'étudier. Et il nous invite à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse, dit le proverbe. Verset 18, toujours ce rappel, fais ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux. Les versets 20 à 25 insistent encore sur l'idée de communiquer le message à nos enfants. Et la justice, qui consiste à être juste devant Dieu, c'est d'observer, verset 25, et de mettre en pratique ses commandements. Les 10 commandements sont donnés pour notre bien. Si vous croyez trouver la joie, le bonheur en violant les commandements de Dieu, vous vous trompez gravement. Quelqu'un dit, rien de ce que Dieu interdit est bon pour nous à long terme. Et rien de ce que Dieu autorise n'est mauvais pour nous à long terme. Je sais pas pour vous, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait « Oh, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir péché !» Ça a été un peu dur au départ, je dois l'admettre. Mais ça a fini par payer gros. Quand je pêche, je le regrette toujours et pour toujours. Le problème avec les 10 commandements, c'est que ça constitue ce qu'on appelle la loi, avec les autres préceptes qui s'y attachent. Et nous savons que le chrétien n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné ces 10 commandements? Pour nous montrer ses exigences morales. Et aussi pour nous montrer le chemin qui mène au bonheur. Mais comme vous, j'ai réalisé que les 10 commandements, j'arrive pas. J'arrive pas à les respecter. Et même si je les respectais toute ma vie, parfaitement. Mais un jour de fatigue, je me mets en colère, c'est fini. Jacques, dans son épître, explique que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Il n'est pas question de dire « je fais mieux que Rain » ou il fait mieux que moi. La vérité, c'est que si c'est pas la perfection, ça ne vaut rien du tout pour Dieu. Un seul faux pas, et c'est râpé pour moi. One boo-boo and you're out. Une bévue et on est bon pour le rebut. Vous avez déjà vu ces bateaux qui sont attachés à la rive par une chaîne? À votre avis, combien de maillons de la chaîne faut-il couper pour que le bateau parte à la dérive? Il suffit d'un seul. La loi, en fait, elle a été montrée pour nous montrer quoi? Que nous sommes pécheurs. Que nous sommes coupables devant Dieu. Paul dit que c'est pour que toute bouche soit fermée. Pour qu'on arrête de se justifier. Qu'on reconnaisse, oui Seigneur, je suis coupable. La loi, les 10 commandements, c'est comme un miroir qui nous montre dans notre salle de bain que nous sommes sales. Ce n'est pas le miroir qui nous a salis. Ce n'est pas non plus le miroir qui va nous laver. Il faut l'eau et le savon. Le miroir, il ne fait que révéler la saleté. Il nous faut nous laver. De la même façon, seul le sang de Jésus versé à la croix peut nous laver. Les 10 commandements nous montrent combien nous sommes loin de la perfection que Dieu veut de nous. La loi, elle nous amène à la connaissance du péché. Paul nous dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si je roule encore une fois l'exemple, si je roule à 120 km à l'heure dans un petit village devant une école, c'est mal. C'est stupide, c'est dangereux. Mais il faut qu'il y ait un signe de limitation de vitesse pour que je sache que c'est une infraction. Un signe qui me dise qu'il y a une école, que je suis arrivé dans un village. Si je fonce à 120, peut-être que je ne vais même pas m'en apercevoir. Paul dit qu'il a connu qu'il avait de la convoitise dans son cœur parce que la loi disait « tu ne convoiteras pas ». Le but des 10 commandements de la loi, c'est de nous amener à Jésus-Christ. Nous convaincre que nous sommes absolument perdus sans lui. Paul dit que la loi, c'est comme un précepteur, un tuteur, qui nous emmène à Christ pour être justifiés par la foi. Elle nous amène à prendre conscience que tous, sans exception, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Encore une fois, la loi, elle n'a aucun problème. Si nous suivons, si nous efforçons de suivre ses préceptes, si nous demandons l'aide de Dieu pour la vivre, nous allons être heureux. La loi, Paul, pardon, David dit qu'elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le problème, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est notre nature qui nous rend incapables de la respecter. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Les 10 commandements sont toujours valables. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'a jamais péché. Lui, il l'a respecté. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu nous fait une incroyable faveur si nous mettons notre foi en Christ, en son sacrifice à la croix, alors Dieu nous met au bénéfice de sa perfection. Si je crois en lui, alors Dieu me considère comme pur, comme si je n'avais jamais péché. Quelqu'un a dit, la loi dit, fais ceci et tu vivras. Mais elle ne nous donne ni pied ni main. La grâce nous dit, vole. Et elle nous donne des ailes. Il est important de réaliser dans le contexte que les enfants d'Israël n'ont jamais réussi à tenir leur promesse de respecter l'Alliance. Ils ont fabriqué des idoles. Ils ont adoré d'autres dieux. Parce qu'ils ont brisé l'Alliance, ils ont été chassés de la terre promise. Dispersés dans le monde entier. Cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, leur ancêtre, n'a pas réussi parce qu'elle était basée sur l'obéissance de l'homme. Ce n'était pas une erreur de la part de Dieu qui dit « zut, ça ne marche pas ». L'ancienne alliance, elle voulait nous amener à pleurer pour la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance que Dieu a établie par, au travers de Jésus. Et cette alliance, elle ne peut pas échouer parce qu'elle est fondée non plus sur notre obéissance, notre fidélité. Notre persévérance. Elle est fondée sur Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Ma seule part, c'est la foi en ce que Dieu a fait. Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous lave de nos péchés et fait de nous son peuple. Il me donne aussi son Esprit Saint en moi. Et par sa puissance agissant en moi, j'ai la capacité d'obéir à ses 10 commandements. De garder ses préceptes, de marcher avec lui. Lorsque je chute, je pêche. Que me montrent toujours les 10 commandements. Je peux venir confesser mes péchés. Il est juste et fidèle de me pardonner mes péchés, de me laver de toute iniquité. Maintenant, les 10 commandements, ce n'est plus mon travail. c'est le travail de Dieu par son esprit en moi. Ma part, c'est la foi. C'est de croire, de faire confiance à Dieu pour accomplir ce travail. Elle ne peut plus échouer, elle est fondée sur Dieu. Quand Jésus avait pris la coupe de vin, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Nous voyons comment l'Ancien Testament nous montre le Nouveau Testament. Testament, on peut remplacer par alliance. L'ancienne alliance nous conduit à la nouvelle alliance. Si je devais rester en relation avec Dieu par l'ancienne alliance, je peux vous assurer, au cas où il vous restera encore quelques doutes, que j'échouerai lamentablement. Personne n'en doute, je sais. Mais grâce à la nouvelle alliance, je suis accepté par Dieu. Il est fidèle. Il tient ses promesses. Il est à l'œuvre dans ma vie. Il ne peut pas échouer. Alléluia. Prions. Seigneur, merci de cette parole qui est la vérité. Seigneur, nous voyons les gens chercher le bonheur de tous côtés. Merci de nous rappeler que ces commandements que tu nous as donnés il y a longtemps sont le secret du bonheur. Et Seigneur, nous réalisons que sans toi, nous ne pouvons pas arriver à les respecter. Seigneur, donne-nous la foi de savoir que toi, tu peux agir en nous pour les respecter. Seigneur, ne nous permets jamais d'utiliser ta grâce, ton amour sans mérite, sans que nous le méritions, pour pécher.